Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu. Média et culture au sens large. Il y aura évidemment dans l'émission, comme demain, Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Dans quelques instants, notre petit nouveau, le journal des médias et les audiences avec Rémi Jacob. Notre infomédia va nous emmener en Iran avec un numéro spécial du magazine Elle. Le titre nous appelle à l'action. Soyez leur voix. Nous écouterons les voix d'Ava Jamshidi, grand reporter à Elle, et Fanny Vidal. Elle est responsable du programme Liberté à Amnesty International. Nos invités ensuite, le réalisateur Samuel Collardet pour une série documentaire hors norme, pour un fait divers également hors norme, Mouchi qui a tué Jill Halliburton, c'est le titre, une affaire qui avait remué l'Amérique, et notre invité au point qu'il a déménagé en Floride avec femme et enfant pour travailler sur ce doc pendant 4 ans. Enfin, le comédien Stephen Fries qui passe derrière la caméra. Son premier film nous plonge dans le milieu des juifs ultra-orthodoxes. Tu choisiras la vie sort demain avec Lou Delage dans le premier rôle, Lumineuse. Elle sera également avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias, Rémi.
France Télévisions qui a dévoilé le thème de ses prochains documentaires événements, également Nouvelle Star qui revient sur M6 pour fêter ses 20 ans. On connaît désormais la date de diffusion et puis la galère dans les transports parisiens. C'est un véritable chaos depuis plusieurs mois. C'est au cœur ce soir d'une émission spéciale sur France 3, Paris-Île-de-France. On entendra dans un instant son présentateur.
Mais d'abord, on commence par les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir le podium.
C'est France 3 qui est arrivé hier en première position avec la série Le Voyageur, 4,2 millions de téléspectateurs, soit 19,9% du public. À la deuxième place, on retrouve TF1 avec la série SWAT, 2,9 millions de téléspectateurs, soit 13,5% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Caméra Café, 2,5 millions de téléspectateurs et 12,7% de part d'audience. Et M6 qui est leader sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et puis un petit mot tiens, sur l'Access Prime Time, scène de ménage qui continue de très très bien fonctionner avec de beaux records en ce moment. Des résultats qui s'expliquent très probablement par l'arrivée d'un nouveau couple en début de semaine, interprété par Didier Benureau et Fanny Cottençon.
Europe 1, le journal des médias.
Et on commence avec le Festival international du film documentaire qui a lieu cette semaine à Biarritz.
Oui, ça s'appelle le FIPADOC et c'est la grand-messe du documentaire. Hier, France Télévisions organisait sur place une conférence de presse. Le groupe public qui a levé le voile sur de nombreux documentaires à venir et deux ont particulièrement retenu mon attention. Le premier s'appelle Le Collège de Monsieur Paty. Ça sera diffusé dans quelques mois sur France 2. Ça sera dans la case infrarouge. Avec cette question, comment le collège dans lequel enseignait Samuel Paty peut-il retrouver une forme de sérénité après une telle tragédie? Autre documentaire qui devrait faire parler, Homo en France, c'est son nom, proposé par Bangoumi, la société qui produit Quotidien. L'un de ses auteurs sera Vincent Dedienne, diffusé sur France 2. Ce programme interrogera, je cite, la place des homosexuels au sein de notre société à travers le portrait de gays et de lesbiennes de 2023.
Une conférence de presse au cours de laquelle a également été annoncé un record.
Et oui, et ça concerne le replay de l'affaire d'Outreau, la série documentaire qui était en baisse un petit peu hier soir à l'antenne, mais qui est en train, sur le linéaire, sur le digital, de pulvériser des records de visionnage sur la plateforme de France Télévisions. Explication de la directrice des documentaires du groupe, Catherine Alvarez. Elle était hier soir au micro de Culture Média.
1 million de vidéos vues depuis la mise en ligne de la série, ce qui n'est du jamais vu pour du documentaire. Et de plus, 8000 comptes créés sur la plateforme France.tv depuis une semaine, du jamais vu non plus, qui sont des comptes créés pour regarder l'affaire d'Outreau sur France Télévisions, sur la plateforme. Jamais aucun documentaire n'a fait ce score. Pour la première fois, on a mis une série tout d'abord en preview dès 6h du matin, c'est-à-dire que les 4 épisodes ont été mis en ligne, et bien tout simplement le public a suivi, c'est-à-dire avait envie tout de suite d'en savoir plus.
On avait parlé justement à ce micro, on avait reçu l'autrice Agnès Pizzini. On change de chaîne et on part sur M6 qui a dévoilé la date de l'émission anniversaire consacrée à la Nouvelle Star.
Ouais, oui, 20 ans déjà pour cette émission hein, qui va revenir à l'antenne le temps de deux soirées. La première sera diffusée le mercredi 15 février. On l'a appris hier avec au menu de nombreux magnétos de passage culte. Également les retrouvailles du tout premier jury hein, qui était composé de Marianne James, Dov Attia, Manu Katché et André Manoukian. Seront également présents de nombreux vainqueurs du télécrochet à l'image de Steve Estatov, Christophe Willem ou encore Julien Doré. Julien Doré qui offrira d'ailleurs aux téléspectateurs une nouvelle version de ce titre, hein, souvenez-vous, qu'il avait révélé pendant l'émission.
Moi, je m'appelle Lolita.
Moi, Lolita, une reprise d'Alizé hein, qui avait été un déclic pour lui dans ce télécrochet. À noter que cette émission anniversaire sera présentée par Karine Lemarchand et c'est donc à retrouver le 15 février sur M6.
L'assassinat d'un journaliste suscite depuis quelques jours de l'émotion au Cameroun.
Il s'appelait Martinez Zogo, il était âgé de 51 ans et c'était le directeur général de la radio Amplitude FM, une radio basée à Yaoundé et très écoutée dans la capitale camerounaise. Il animait d'ailleurs sur cette même station une émission quotidienne dans laquelle il évoquait régulièrement des affaires de corruption, se faisant de nombreux ennemis. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a fait part dans un communiqué de sa consternation, dénonçant, je cite, un assassinat odieux. L'ONG Reporters sans frontières évoque de son côté un grave coup porté à la démocratie et à la liberté de la presse.
On n'en sait plus sur la suite de la série 10%.
Oui, ça sera non plus sur le petit, mais sur le grand écran. Sa créatrice Fanny Herrero s'est livrée à quelques confidences auprès des Inrock. Elle se dit, je cite, extrêmement heureuse de retrouver ces personnages qu'elle adore. De son côté, le comédien Thibaut de Montalembert, qui incarnait l'un des agents artistiques dans 10%, a été questionné sur sa présence ou non dans ce film par nos confrères de TV Mag. On l'écoute.
Tout le monde repart, je pense, oui. Ouais. Après, c'est très difficile et c'est ça le problème. C'est comment faire pour... On est quand même nombreux. Entre les agents, les assistants, etc., pour que tout le monde ait quelque chose à défendre en une heure et demie.
Ouais, dans
ou
un film.
En une heure trois quarts.
Ouais, ouais. Parce que c'est assez.
Ça, c'est un challenge. Assez...
Et on termine ce journal avec une émission consacrée au chaos dans les transports publics franciliens.
Un programme diffusé ce soir en prime sur France 3 Paris-Île-de-France. C'est ce qu'on appelle un décrochage, puisque normalement sur cette chaîne, les primes sont ceux de France 3 National. Et bien là, exceptionnellement, un programme local est proposé à 21h05. C'est une édition spéciale de l'émission Parigo avec pour titre « Transport public, comment sortir de la crise ?» En plateau notamment la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et le PDG de la RATP, Jean Castex. Explication de son présentateur Bertrand Lambert.
Depuis 4 mois, la situation dans nos transports en commun s'est complètement dégradée. On a un certain nombre de bus qui ne circulent plus. On a des lignes complètement bondées parce que les temps d'attente entre deux rames de métro, de RER ou de Transilien se sont considérablement allongés. C'est un peu comme un crash aérien. C'est plein de petits problèmes qui, mis bout à bout, amènent à un chaos généralisé de nos transports en commun. Quand on est en Île-de-France, si on n'a pas un métro ou un RER toutes les 2 ou 3 ou 4 minutes aux heures de pointe, eh bien tout simplement les trains sont bondés, on ne peut plus rentrer dedans et c'est l'asphyxie, c'est des malaises voyageurs, c'est des problèmes à n'en plus finir ensuite qui viennent. Et donc voilà, il fallait faire une émission pour comprendre comment on a pu en arriver là et surtout comment on va s'en sortir tous ensemble.
Alors ce sujet, évidemment, il concerne en premier lieu les Parisiens, mais en préparant cette émission avec vous notamment, Philippe, ouais. On se demandait si ça n'aurait pas pu être diffusé sur l'antenne nationale de France 3, car ce chaos dans les transports, ça intrigue tout de même de nombreux Français. Beaucoup viennent à Paris. J'ai posé la question à Bertrand Lambert.
Alors c'est vrai que le programme d'origine Parigo, qui concerne pourtant que les transports en commun franciliens, intéresse toute la France. On le voit avec les replays. Mais là, c'est vrai que ce soir, c'est une émission exceptionnelle. Il faut savoir que ça fait en 20 ans que à France 3 Île-de-France, j'ai jamais vu un décrochage à 21h autre que pour les élections régionales ou départementales. Mais on a cette chance-là. Donc déjà, on va se concentrer eh bien, pour nos 12 millions de naufragés des transports en commun, parce que ça les concerne directement. C'est vrai qu'on aurait pu voir plus grand, mais peut-être pour une autre fois. En tout cas, cette émission sera disponible en replay sur le site France TV pour tout le monde.
L'émission s'appelle donc « Transport public, comment sortir de la crise ?» C'est ce soir sur France 3 Paris Île-de-France. Merci beaucoup Rémi Jacob. Vous, on vous retrouve demain. Pour un jour, nouveau journal des médias, j'y arrive, à demain.
À demain.
Je me disais si les métros fonctionnent. Dans un instant, dans notre infomédia du jour, c'est le magazine Elle qui consacre demain un numéro spécial à l'Iran. Le titre, soutenons les iraniennes, soyez leur voix. On va essayer d'être à la hauteur. On en parle avec Ava Jamshidi, grand reporter au journal Elle, l'hebdomadaire, et Fanny Vidal, elle est responsable du programme Liberté et Amnesty International. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Culture Média.
Philippe Vandel.
Je l'ai déjà, j'ai déjà la couverture, vous pouvez la voir sur europe1.fr, mais il sort demain. Demain, c'est pour cette semaine, le magazine Elle publie un numéro spécial en solidarité avec les femmes iraniennes. À la une, l'actrice Golshifteh Farahani, iranienne exilée en France, qui tient une photo de Mahsa Amini. C'est cette jeune femme qui avait été assassinée le 16 septembre à Téhéran et qui a fait basculer le pays dans les révoltes et... hélas, une répression sanglante. Ah, Jamshidi, vous êtes grand reporter à Elle. Vous avez participé à ce numéro spécial. Bonjour.
Bonjour.
Fanny Vidal, vous êtes avec nous. Vous êtes responsable du programme Liberté Amnesty International et vous nous raconterez comment fonctionne la répression et la justice en Iran. Je mets des guillemets. Bonjour.
Bonjour.
Le titre du magazine, c'est le suivant. Il y a d'abord un surtitre, Femme, vie, liberté, qui est le slogan qui était tagué partout dans le pays. C'est un hashtag qui a disparu. Vous nous raconterez pourquoi et comment. Le titre, c'est Soutenons les Iraniennes, soyez leur voix. On va commencer avec une voix, justement, qui est devenue un des symboles de cette révolution. Je vais traduire, c'est Bella Ciao qu'on a reconnue en farsi, ça donne la chair de poule. La grappe de ma colère et de ta colère est assoiffée de pluie. Nos droits ne sont pas minimes, pas de tristesse, nos cœurs sont proches. Le monde est dans les ténèbres, c'est le commencement, la fenêtre est ouverte jusqu'à un rêve. Avad Jamshidi, je commence avec vous, ça donne la chair de poule pour vous aussi?
Oui, bien sûr.
Chant de révolte italien de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'idée que le combat des Iraniennes est un combat universel qui dépasse les frontières, qui dépasse les époques.
Qui dépasse les frontières, qui dépasse les époques, comme vous l'avez dit, et qui dépasse les sexes également, puisque ce combat qui est amené par les Iraniennes dans ce pays, mais également à l'étranger, on en parlera évidemment, puisque c'est le cas en France, il est aussi porté par des hommes, et c'est important de le rappeler. Et il y a une chose très importante que nous a dite l'actrice Golshifteh Farahani lors de l'entretien que j'ai pu réaliser avec elle, c'est que c'est la première fois sans doute de l'histoire de l'humanité qu'il y a des hommes qui acceptent de perdre leur vie pour les droits des femmes, pour qu'elles obtiennent le droit de porter ou de ne pas porter le voile.
Quand on fait référence au mouvement MeToo, c'était un mouvement non mixte, si j'ose dire. C'était des femmes pour les femmes.
C'était essentiellement des femmes qui s'étaient mobilisées pour les femmes. On a très peu vu d'hommes, ouais, finalement, dans les manifestations qu'il y a pu avoir en France ou à l'étranger. Et là, c'est vrai que ça matine ce mouvement vraiment d'une coloration historique. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous, au magazine Elle, eh bien, on a décidé de consacrer une pour célébrer le courage inédit, il faut le dire, de ces femmes qui, pour bénéficier de cette liberté, prennent le risque d'être tués, torturés, mutilés et violés dans d'abominables prisons iraniennes.
On va le raconter, on comprend absolument le but de ce numéro spécial. Pourquoi maintenant ?
On a décidé de le faire maintenant parce que c'est un moment où on a l'impression peut-être que les relais de ce mouvement s'essoufflent un peu, on en entend moins parler. Or, il reste extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Alors, ça a l'air de rien pour nous, les réseaux sociaux, mais on parle quand même d'un mouvement en Iran où ces réseaux sociaux sont strictement interdits, où le simple fait de détenir un compte Twitter ou Instagram peut vous conduire en prison à subir les sorts dont on parlait. Et puis on s'est dit que c'était bien aussi de mobiliser l'opinion publique à un moment où se pose la question assez essentielle de l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes, qui serait un moyen de pression supplémentaire que les pays occidentaux pourraient activer pour accentuer leur répression et la réprobation sur ce régime.
Vous approuvez cette action si elle venait, si elle s'avérait exacte, Fanny Vidal ?
Alors, Fanny Gallois, pardon.
J'ai noté Fanny Vidal.
Il n'y a pas de souci.
Fanny Gallois.
Ça reste Fanny. On approuve toutes les actions qui visent à faire pression sur les autorités iraniennes qui agissent actuellement dans la plus grande impunité. Et ce, depuis des années. Ce n'est pas malheureusement depuis la mort de Mahsa Amini et depuis cette révolte sans précédent que cette impunité demeure. Nous, on appelle à plus. On appelle à ce que les États donc déjà mènent une enquête. C'est ce qu'on a obtenu grâce à une pétition qui a réuni 1 million de signatures à travers le monde, parce qu'effectivement, ce mouvement est inédit et a suscité une indignation au niveau international, heureusement. Donc, il y a une enquête qui est en cours et on compte beaucoup dessus, qui a été mise en place en urgence au niveau de l'ONU. Mais on appelle à ce que les responsables soient traduits en justice, soient tenus responsables de leurs actes. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas du tout menacés d'être tenus responsables. Et c'est aussi ce qui nourrit ce cycle d'impunité, ce cycle de violence et malheureusement les exécutions aussi qu'on voit en ce moment qui sont très graves et qui demandent une intervention en urgence. Donc on appelle à ce que ces personnes soient menacées, soient traduites en justice, que ce soit dans d'autres pays, au niveau international, mais qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises pour menacer les personnes qui sont aux manettes actuellement de ces répressions et de ces exécutions.
Voilà, et même s'ils ne sortent pas de l'Iran, cette mesure serait évidemment symbolique. Ils auraient de toute façon l'interdiction de sortir de l'Iran.
Tout à fait.
Dans ce numéro, Ava Jamshidi, il y a toute une série de photos de personnalités fortes qui incarnent chacune une certaine idée du féminisme. Laura Adler, Christiane Taubira, Clara Luciani, Léa Salamé, Elsa Zilberstein, qui portent chacune la photo d'une prisonnière iranienne. Comment les avez-vous choisies et de quelle manière, pourquoi ce choix ?
On a décidé de demander à ces personnalités bien de s'engager de la manière que vous avez décrite, donc en tenant une photo de ces jeunes femmes, de ces toutes jeunes femmes qui ont été incarcérées dans une prison qui se trouve au nord de Téhéran, dans des conditions abominables, raison pour laquelle elles font des grèves de la faim. L'idée vraiment, c'était de solliciter des personnalités qui incarnent ces valeurs de féminisme, de liberté, et je dois dire que la majorité de celles que nous avons contactées se sont prêtés au jeu de très bonne grâce et ont bousculé leur agenda pour être présentes avec nous.
Est-ce que c'est entendu en Iran ? Je me souviens que, contrairement à ce qu'on pensait et certains ricanaient ici en France, ces comédiennes qui se sont coupées une mèche de cheveux, ça avait été très 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 remarqué là-bas à Téhéran.
Ouais, vous avez vraiment raison de poser cette question, parce qu'on peut se dire, nous d'ici, oh, peut-être que tout ça c'est anecdotique, que c'est complètement dérisoire de poser avec
une
photo.
C'est la énième pétition.
C'est la énième pétition, c'est la énième couverture de magazine. Eh bien, pas du tout. Une des jeunes manifestantes que j'ai eu l'occasion d'interviewer, qui se trouve en Iran, dans une ville qui n'est même pas la capitale, me disait qu'ils sont absolument bouleversés, que ça leur donne vraiment du courage de savoir qu'ils sont entendus, qu'ils sont soutenus, et que même si pour nous ça peut sembler un peu dérisoire, pour eux c'est vraiment important et ça les galvanise et ça les incite à poursuivre ce mouvement.
Le journal va sortir demain, le jour où sera jugée Armita Abbasi. C'est une jeune femme, cette jeune femme de 21 ans qui avait les cheveux platines, des mèches vertes, qui avait été arrêtée pour avoir posté des messages hostiles au régime sur les réseaux sociaux, accusée pour cela d'être leader des émeutes. Elle est emprisonnée dans la prison de Kochoy, où elle a été hospitalisée le 18 octobre dernier, pardon de ces détails, avec une hémorragie au rectum, officiellement problème digestif, officiellement.
Officiellement, c'est la version officielle du régime qui a pris la malheureuse et nauséabonde habitude de maquiller les sévices qu'il commet, comme le sort d'une autre jeune femme qu'évoque Golshifteh Farahani dans cet entretien.
Parce que là, en l'occurrence, ce sont des viols.
Ce sont des viols, évidemment, ce sont des viols. C'est ce qui arrive malheureusement dans ces prisons. Les mères de famille, quand elles récupèrent leur fille, ce qui arrive parfois en sortant de prison, elle demande des pilules contraceptives pour que ce ne soit pas pour que ses filles ne tombent pas enceintes. Il y en a beaucoup qui se suicident aussi, frappées du déshonneur d'avoir été violées. Il y a aussi des jeunes femmes qui ont pu être retrouvées en bas d'immeubles, soi-disant suicidées, avec tous les os brisés. C'est la duplicité de ce régime qui est dénoncée par ces actrices.
Duplicité, et parfois ces actes affreux, horribles sont assumés. C'était le 7 décembre 86. Le guide suprême qui était interrogé sur l'utilisation massive du viol dans les prisons, il avait répondu ceci. Il avait assumé de tels viols sont essentiels pour empêcher ces femmes anti-islam d'entrer au paradis. Si elles sont exécutées vierges, elles entreront au paradis. Donc, les viols sont extrêmement important pour empêcher ces éléments d'entrer au paradis. Fin de citation. Je vous laisse méditer sur ceci. On revient dans quelques instants dans Culture Média. Tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Soutenons les Iraniennes, soyez leur voix. C'est cette injonction qu'on accepte de l'hebdomadaire Elle qui sort demain. On parle des femmes iraniennes. On est avec Fanny Gallois, responsable liberté chez Amnesty International France, et Ava Jamshidi, qui est grand reporter à Elle et qui a en gros chapeauté ce numéro spécial. Nous parlions d'Armita Abbasi, cette jeune femme qui a été l'une des premières arrêtées par les Mollahs. Que risque-t-elle pour les avoir critiquées sur les réseaux sociaux ? La mort, des coups de bâton, rien de tout ça. Et le corollaire, c'est donc en quoi la mobilisation internationale peut jouer un rôle ?
C'est très difficile de dire précisément ce qu'elle risque, et c'est l'un des griefs de ces jeunes manifestantes, puisque la violence de cette répression iranienne s'exerce un peu de manière aléatoire, sans réellement obéir à des règles précises. Donc elle peut être fouettée, elle peut être battue, elle peut également être tuée. On ne le saura malheureusement qu'à l'issue de son procès. Quant à l'opportunité d'une mobilisation, c'est évidemment la raison pour laquelle on le fait. On pense que ça peut changer les choses, que ça peut accentuer la pression sur ce régime qui est quand même exsangue, qui a été frappé pendant de très longues années d'un embargo économique qui fait qu'une grande partie de la population aussi commence vraiment à en avoir ras-le-bol de ces conditions de vie économiques extrêmement précaires, doublées d'une oppression et d'une restriction des libertés qui sont difficilement respirables et soutenables pour les femmes, mais également pour les hommes, et pour les hommes des générations, pas uniquement des manifestantes qui se mobilisent, mais pour la génération de leurs parents, qui commencent vraiment à ne plus le supporter. Et c'est peut-être ça la différence avec les précédents mouvements de révolte qu'il y a pu avoir en Iran, c'est que là, il y a vraiment une généralisation du ras-le-bol de la population qui pourrait, je ne le peux malheureusement pas le dire avec certitude, mais en tout cas, infléchir un peu la dureté et la sévérité de ce régime.
Je pose la même question à Fanny Gallois, de votre expérience à Amnesty International. En quoi cette mobilisation peut faire changer, sinon changer, bouger les choses en Iran?
Cette mobilisation, elle est fondamentale. On a vraiment besoin, et les personnes qui se mobilisent actuellement et qui prennent part à ce soulèvement sans précédent en Iran, et les manifestants qui exercent leur droit de manifester malgré les risques qu'ils prennent, ont besoin de cet écho international. Encore une fois, c'est un bain de sang à huis clos qui est en train de se dérouler depuis le 16 septembre en Iran. Les autorités comptent sur ce huis clos. Les autorités font tout pour que ces informations ne sortent pas. Elles font aussi, contrairement aux apparences, elles essaient de montrer qu'elles sont respectueuses d'un certain nombre de règles. Ça peut paraître paradoxal, mais il y a un lobbying qui est mené par les autorités iraniennes très fort pour faire valoir certaines excuses, pour montrer qu'ils respectent certaines procédures, ce qui est évidemment totalement faux. Toutes les procédures, les principes fondamentaux du droit à un procès équitable sont violés. Comme vous le disiez, il y a des cas de torture qui sont documentés depuis fort longtemps d'ailleurs dans les prisons. Il y a eu une répression aussi sanglante dans les rues des manifestants, il faut le rappeler, avant même que ça se passe dans les prisons. Là, il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées, y compris des mineurs, y compris des jeunes femmes mineures, des enfants de 2 ans à 18 ans évidemment, et des jeunes femmes dont effectivement les autorités ont essayé de maquiller les morts, soit en niant qu'elles étaient mortes, soit en les faisant passer pour des suicides, effectivement, et en faisant pression, des pressions inimaginables sur les proches et les familles. Donc cette mobilisation, elle est fondamentale.
Malgré la répression, les femmes ne plient pas. On va écouter un témoignage recueilli par France 2. C'était dans le JT du 15 janvier dernier. Témoignage anonyme, le visage est flouté. Mais combien même cette femme risque sa vie en prenant la parole?
On a décidé de changer notre façon de protester. Car la répression était sauvage. On payait un trop lourd tribut. Les funérailles des condamnés à mort se transforment spontanément en tribunes politiques. On imprime des tracts, on les distribue dans les rues. Et tout ce que le régime demande de faire, on fait l'inverse.
Comment ça se passe également pour les journalistes? Ici, on a vu cette séquence glaçante où une jeune iranienne qui est ici en France a un numéro, elle croit appeler quelqu'un de sa famille, elle tombe sur quelqu'un des services secrets, de la police politique, et il menace depuis la France ce qui se passe en Iran. Qu'est-ce qu'on peut dire et comment on peut agir?
C'est très compliqué de répondre précisément à cette question. On essaie évidemment, malgré tout, de continuer de documenter ce conflit, mais effectivement, pour toute personne qui aurait de la famille sur place ou qui se trouve ici, les services de renseignement iraniens et les gardiens de la Révolution mettent cette pression pour inciter tout simplement les médias à ne pas documenter la révolte qui se passe là-bas. Il faut rappeler aussi que sur place, il n'y a pas de médias qui relaient la révolte qui est en train de se produire. Les informations qu'on a et qu'on obtient, on les a en contactant des gens sur place, en prenant vraiment des précautions inimaginables pour qu'elles ne soient pas tracées.
C'est-à-dire que l'information ne passe absolument pas. Je vais faire un parallèle avec l'autre actu, grosse actu internationale du moment, c'est la guerre en Ukraine. On en parle dans les médias russes, on ne prononce pas le mot guerre, on dit que c'est une opération spéciale pour chasser les nazis d'Ukraine, mais on en parle quand même, il y a des talk shows tous les soirs. Là, sur la télévision d'État iranienne, il n'y a rien du tout.
C'est comme s'il ne se passait strictement rien.
Les procès sont des parodies de procès, ils sont parfois publics. Qu'est-ce qui se passe dans ces procès?
Les procès sont surtout, tout ce qu'il se passe dans les procès, toutes les procédures sont extrêmement secrètes, elles sont encore une fois, elles violent les droits les plus élémentaires des personnes qui sont accusées et traduites en justice. Ce sont des procès expéditifs qui sont menés par, on l'a dit, je crois, par des tribunaux spéciaux, des tribunaux révolutionnaires qui ne sont pas du tout indépendants, donc qui ne respectent pas les normes fondamentales du droit international. Et ce sont on a des personnes qui, en quelques jours, se retrouvent jugées sur des charges beaucoup trop floues de type inimitié envers Dieu ou corruption sur terre, qui sont des charges qui sont passibles de la peine de mort et qui en quelques jours se risquent l'exécution ou sont exécutées. Donc on est vraiment sur des procès qui n'ont rien de respectueux des droits fondamentaux, malgré les apparences que les autorités tentent de préserver.
On peut pas aller
préserver.
Au procès en se disant j'ai un bon dossier, je ne risque rien. C'est aussi un instrument de terreur. Vous prenez le cas Ahwa Jamshidi d'un homme exécuté le 12 décembre. Il s'appelait Majid Reza Ranavard. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Qui était-il et pourquoi l'avez-vous cité en exemple ?
C'était un jeune manifestant qui a été condamné à la peine de mort et qui a beaucoup fait parler en Iran, puisque quelques minutes avant son exécution, il a eu le droit de prononcer quelques mots. Et ces mots ont galvanisé littéralement les Iraniennes et les Iraniens, puisqu'il les a incités à ne pas lire le Coran, à ne pas prier sur sa tombe, mais à chanter, à danser et à être le plus joyeux possible. Et ça a évidemment beaucoup marqué, beaucoup touché les gens sur place et pas seulement. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité pouvoir parler de ce tout jeune homme qui a été pendu.
Et la phrase exacte, qu'il ne lise pas le Coran et ne prie pas sur ma tombe, qu'il soit heureux et joue des chansons joyeuses, je l'ai lu dans votre article. Fanny Gallois, à Amnesty International, une grosse partie de votre travail repose sur l'enquête, la récolte de témoignages. Comment arrivez-vous à faire sortir les infos d'Iran ?
C'est très difficile de faire sortir les informations d'Iran, malgré le courage dont font preuve les Iraniens et les personnes en Iran qui participent à ce soulèvement et qui tentent par tous les moyens de contourner les blocages à la fois des réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, les coupures d'Internet, toutes ces techniques que mettent en œuvre les autorités pour justement empêcher les informations de fuiter. Ils utilisent d'autres moyens effectivement pour essayer de faire passer ces témoignages. Ils documentent beaucoup, il y a beaucoup de vidéos qui circulent et donc on essaye de au maximum documenter. Encore une fois, l'objectif, c'est de mettre fin à cette impunité. C'est que ces crimes ne restent pas impunis. Et pour ça, il faut récolter des preuves. Il faut recouper les sources. Il faut avoir des preuves qui pourront être valables en justice et valoir la mise en cause de ces responsables.
Merci beaucoup, Fanny Gallois. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Liberté à Amnesty International. Ahwa Jamshidi, vous êtes grand reporter à Elle qui publie demain un numéro spécial dont je montre la couverture. Soyez leur voix. Il est question, évidemment, des femmes iraniennes. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci à vous.
Nous, on va se retrouver dans un instant avec une série documentaire hors norme pour un fait divers également hors norme. Affaire qui a remué l'Amérique. On sera avec son réalisateur. Ça l'a tellement passionné qu'il est allé habiter en Floride pendant 4 ans avec femmes et enfants pour tourner ce doc. Puis on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Dans un instant, on va recevoir le réalisateur Samuel Collardet pour sa série documentaire Mucci qui a tué Gilles Halliburton. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les cocasseries médiatiques et ce matin, vous nous racontez une histoire haute en couleur, c'est le cas de le dire, une affaire de publicité pour des bonbons jugée beaucoup trop violet.
Oui, ou plus précisément un peu trop purple, Philippe. Car l'affaire nous arrive tout droit des États-Unis et elle a passionné hier au moins 3 grands médias français, puisque je l'ai vu traité par les sites du Parisien et de Libération, mais également par le correspondant de TF1 dans le journal de 20h. Alors, de quoi est-il question exactement ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques mois de cela, le géant Amerloc du bon bec en chocolat M&M's a introduit un tout nouveau personnage dans ses spots de publicité.
Hey Purple, 10 minutes to your big debut.
Purple qui veut donc dire violet outre-Atlantique, une sorte de grosse dame bonbon toute violette donc, plus grande et plus corpulente que les autres personnages marron, rouge, bleu, jaune. Je ne vous présente pas toute l'équipe des M&M's, vous les connaissez déjà. Alors quel est le problème avec cette malheureuse Madame Purple ?
I think it's time for a big sweeping pen.
Eh bien elle a voulu mettre un big sweeping pen, traduisez un bon gros coup de balai en conformisme ambiant et faire l'éloge de la différence. Car aux États-Unis, le violet est la couleur qui symbolise la communauté LGBT. Et donc, oui, Philippe, vous avez parfaitement compris, Madame Purple est un bonbon trans.
un bonbon, pas tout à fait comme les autres, un bonbon qui revendique sa singularité. I'm just gonna be me. I'm just gonna be me. Voilà, Madame Purple veut simplement pouvoir être enfin elle-même et le chanter, y compris dans la publicité. I'm just gonna be me. Le hic, c'est que ce petit film publicitaire n'a pas du tout plu à l'extrême droite américaine, qui reproche à la marque de faire du militantisme, si si, et de prendre un dangereux virage woke nettement trop prononcé. Alors, eh bien alors, comme l'a montré hier soir le correspondant de TF1 aux États-Unis dans son reportage, les ténors les plus réactionnaires des médias yankees se sont déchaînés contre la marque. Nick Adams, qui fait éditorialiste conservateur comme métier, a appelé à blacklister les M&M's car il y a vu une atteinte à sa virilité.
Nous poursuivons le boycott tant que les hommes de ce pays n'auront pas obtenu réparation pour le préjudice.
Sérieusement. Et pareil sur Fox News, où un certain Tucker Carlson, l'un des présentateurs vedettes de la chaîne, ouvertement pro-Trump, n'a pas hésité à plastronner et à dire courageusement tout le mal qu'il pensait de cette affreuse Madame Purple.
Ils ont cru bon de créer ce personnage de femme obèse, mal sapée, lesbienne pour promouvoir, je cite, le féminisme et l'estime de soi. Mais les bonbons ne doivent pas être politisés. Et je suis ravi que ce soit plus le cas.
Bon, d'une pipe. Voilà, alors si je vous dis, Philippe, que le jeune Tucker Carlson a plastronné, eh bien c'est tout simplement parce qu'au terme d'une campagne de dénigrement qui a duré pendant des semaines, les opposants à Madame Purple viennent d'obtenir gain de cause. Eh oui, M&M's qui gagne 700 millions de dollars par an rien qu'aux États-Unis avec ses bons becs de toutes les couleurs, n'a pas voulu se priver d'une partie de sa clientèle et a donc renvoyé son personnage violet sur les roses. C'en est fini de Miss Purple, elle vient d'être priée d'aller se rhabiller et de disparaître des spots de pub de la marque. Alors voilà, la pluie pourpre des pubs progressistes M&M's n'aura donc pas résisté longtemps à la brûlante incandescence de la contestation, car si le M&M's fond dans la bouche, pas dans la main comme le vantait naguère la réclame, on aura bien compris, Philippe, qu'il s'écrase très facilement sous le poids des conservateurs.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.
À demain.
On va rester aux États-Unis avec vous, Samuel Collardet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de doc et aussi de films de cinéma. Je vais citer votre premier film, L'Apprenti, juste pour situer le personnage qui a reçu le prix Louis Deluc du meilleur premier long métrage en 2008. Également le prix de la quinzaine de la critique à la Mostra de Venise. C'est pas rien. Vous avez réalisé d'autres films. Et aussi 4 épisodes de la série référence Le Bureau des légendes. C'est pas rien non plus. Mais là, votre actu n'est pas une fiction. Au contraire, c'est une enquête au cœur de la vérité, une série documentaire, Mucci, c'est sous-titré « Qui a tué Jill Haliburton ?» 6 épisodes de 52 minutes, 2 épisodes qui passent ce soir sur Canal à 21h, la suite demain, les 4 autres à 21h également sur Canal et aussi à voir sur MyCanal. J'ai tout dit. Un travail colossal de votre part, affaire de meurtre qui a enflammé l'Amérique en 2014. Pour faire dans l'ordre, on commence par la victime. Qui était-elle ? Jill Haliburton Sue, qui avait 57 ans.
Alors, Jill Haliburton Sue, c'est une héritière. Son oncle a créé la compagnie Haliburton, qui est la troisième plus grosse compagnie pétrolière américaine. Et la compagnie Haliburton, c'est aussi la compagnie qui a eu des contrats concernant la guerre en Irak par...
La guerre du Golfe. C'est eux qui s'occupaient de l'approvisionnement des chars, des tanks et de la logistique dans la guerre du Golfe. Donc, il est question de millions de dollars et de pétrodollars. Elle a un mari qui est ingénieur, elle a un fils qui glande en fac. Elle est retrouvée morte dans sa salle de bain. Racontez la manière dont on la retrouve.
Alors, elle est attachée mains et pieds. Elle est poignardée de 25 coups de couteau. Et c'est son fils Justin qui la retrouve dans la baignoire et qui la sort de sa baignoire et qui appelle la police.
Tout accuse le fils au départ. On voit les interrogatoires jusqu'à ce que la police, je suis obligé de résumer parce qu'il y a 6 épisodes de 52 minutes et rien que déjà les 15 premières minutes sont déjà flamboyantes. Alors imaginez, jusqu'à ce que la police découvre 2 traces d'ADN, ADN qui appartient à celui qui donne le nom à votre série, qui est ce Mucci. C'est son pseudo, c'est son surnom.
Oui, alors Mucci, c'est son prénom, c'est Dayante. C'est un jeune afro-américain connu des services de la police pour cambriolage. Il a grandi dans les quartiers pauvres de Miami. Sa maman seule l'a élevé avec ses 4 frères et sœurs. Effectivement, c'est un peu le coupable idéal, mais en même temps, il ne matche pas trop avec le profil du crime.
Ça ne va pas du tout. D'abord, il n'est pas violent.
Voilà,
il et deuxièmement, il n'a rien cambriolé du tout. Et troisièmement, il y avait de l'informatique, il y avait du matériel. Mmh. Il a objectivement aucune raison de mettre 25 coups de couteau s'il est là pour cambrioler. Vraiment, on prend les choses, on s'en va.
Et en plus de ça, il est reconnu par sa communauté comme quelqu'un de charmant. Il est adoré par la gente féminine. Mmh. Il est un peu vu comme le Robin des Bois dans le quartier. Avec l'argent de ses larcins, il paye des chaussures aux enfants des mères célibataires. Il paye les factures des mamies. Il paye. Voilà, c'est le Robin des Bois.
Mais il y a son ADN et le ADN est considéré à tort ou à raison comme une preuve irréfutable. Il est incarcéré. Il y a eu un procès. Vous allez nous raconter. On est une émission média. Vous passionnez pour cette histoire grâce à l'article d'un journal local.
Oui, alors en fait, on a découvert l'affaire avec un article du Miami New Times qui, contrairement à tous les médias locaux qui sont pro-procureurs, cette jeune journaliste mettait en doute, pour plein de raisons, la culpabilité de Deontay.
Vous vous décidez d'enquêter, pas qu'un peu, 5 ans de tournage, ça va plus loin. Vous avez quitté la France, vous avez déménagé avec femme et enfant pour vous installer en Floride.
Oui, alors, contrairement au film que j'ai fait précédemment, celui-ci, c'est un film d'investigation et je ne le voyais pas. Il fallait être vraiment sur place pour...
Oui, mais c'est une sacrée économie, puis ça change votre vie familiale. 4 ans à parler avec Mucci 2 fois par semaine en prison, ce qui est complètement fou, c'est qu'on a des documents qu'on ne voit pas dans une affaire française. Il faut expliquer que les interrogatoires sont publics, c'est-à-dire que sont rendus ensuite au public.
En fait, toutes les pièces du dossier sont ce qu'on appelle public records. Donc, en fait, elles sont publiques à la fois. Donc, elles sont partagées à la fois par le procureur, par la défense et aussi par les médias.
Au passage, les avocats de Mucci avaient peur que vous gêniez leur travail. De quoi avaient-ils peur ?
Alors, le public defender, les avocats commis d'office sont souvent vus comme des losers, des mauvais avocats qui sont là parce que par défaut. Et en plus de ça, encore une fois, les médias locaux sont pro-procureurs, donc souvent les descendent. Donc quand ils voient arriver une caméra, c'est souvent avec méfiance. Et effectivement, moi je voulais filmer vraiment leur travail au plus près. Donc c'était rentrer dans leur bureau et filmer leur quotidien. Et ça, c'était un peu...
Jusque-là, on peut croire que c'est un film classique, je ne reproche pas ça, mais on l'a vu plusieurs fois, qui est la petite victime broyée par le système judiciaire américain car il n'a pas les codes. Sauf que Mucci n'est pas une oie blanche. Il est ambivalent. Il a entraîné dans sa chute en toute conscience 16 personnes de son entourage. Il s'est évadé. Et il y a beaucoup de choses qui jouent contre lui et non pas en sa faveur. Et c'est en ça que votre doc est absolument exceptionnel.
C'est ça. Mucci, il est charmant et charmeur et un peu manipulateur. C'est pas une oie blanche, effectivement. Il a beaucoup de choses à se reprocher. Et en même temps, moi j'ai passé 4 ans, 5 ans à passer d'une intime conviction à une autre. Mmh. Et c'est ce qu'on essaye de faire au moment du montage.
Et à la fin,
montage.
On n'arrive pas à savoir, on est dans la vérité de Clouseau, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, qui est coupable, qui est innocent. C'est ça qui est très très fort.
C'est ça, et même dans l'équipe de production, on est partagé.
Alors, on est en Amérique, il y a également une dimension supplémentaire, ce sont les problèmes raciaux.
C'est ça. En fait, c'est vraiment pour nous, le fait divers, c'est un prétexte pour raconter de manière plus ample les problèmes raciaux aux États-Unis et notamment dans la justice. Mmh. Alors bon, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais on sait très bien que les États-Unis appliquent une incarcération de masse des Afro-Américains. On est, je crois que les hommes...
J'ai les statistiques. Alors je les ai notées, ça m'a sidéré. Aux États-Unis, 70% des hommes noirs qui n'ont pas fait d'études vont connaître la prison à un moment de leur vie. Il y a 2 millions de personnes incarcérées aux USA. Je donne que ces deux chiffres. Il y a sur les 2 millions de personnes incarcérées, 1 million sont des Afro-Américains, alors que les hommes Afro-Américains ne représentent que 6,5% de la population et ils sont 50% en prison. Là où c'est complètement fou cette histoire, c'est que la communauté afro-américaine n'a aucune confiance dans le système judiciaire et il s'est passé un événement qui évidemment a beaucoup fait parler. Au moment du procès, il y avait 2 jurés noirs, 2 jurés Afro-Américains qui n'ont pas voulu le condamner, quand bien même le pensaient-ils coupable, parce qu'il était noir.
Voilà. Et c'est ça, en fait, vraiment le sujet de la série. Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice américaine est complètement biaisée par ces histoires, ces problèmes raciaux. Quand bien même Mucci serait coupable, ces jurés afro-américains
n'y croient pas.
N'y croient pas. Ils peuvent pas, parce que tout de suite, ils vont dire oui, bah alors c'est la police qui a trafiqué les preuves, c'est le procureur ci, c'est le procureur ça. Et malheureusement, et en plus de ça, on arrive, ils en sont venus aux mains quand même, hein, au moment de la délibération. Il y a une femme latino qui a dit voilà, de toute façon, les noirs, vous êtes tous pareils, vous vous comportez tous pareils. Et ils ont commencé à se taper dessus dans la salle de délibération.
Documentaire exceptionnel, on est obligé de le résumer, c'est vous dire si ce qu'on voit est puissant. Il y a plein d'autres sujets qu'on n'a pas évoqués ce matin. C'est à voir. Ça s'appelle Mucci qui a tué Gilles Haliburton. Deux épisodes ce soir à 21h sur Canal. Les quatre autres épisodes, 3 à 6, demain à 21h. Évidemment, à voir sur MyCanal. Merci beaucoup, Samuel Collardet.
Merci beaucoup.
Culture Média continue évidemment sur Europe après les infos de 10h. Nos invités sont la comédienne Lou Delage à l'affiche d'un très beau film, Tu choisiras la vie, film signé Stéphane Fraisse. Il sera aussi avec nous, son premier film. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire nous fait découvrir ses chouchous du moment, le groupe de rock italien Maneskin et Eloïse Goua nous parle d'une série, la toute première série écrite et réalisée par Xavier Dolan. Mais ça, c'est de la fiction. Jean-Luc Lemoine, je ne l'oublie pas, c'est sa session de rattrapage. À tout de suite.